cette année-là, il venait de Pologne.
Entre les jeunes, bon, ils ne pouvaient pas nous voir non plus. Hein. C'est le Polak qui nous appelait tout ça.
Mes parents, ils venaient du Nord, qu'on appelait les Camberlots.
Exactement. Mon pays, c'était Dentergem.
Il y a eu des Yougoslaves, des Serbes.
Surtout des Italiens.
Au début, je me suis ennuyée à mourir, madame.
Ben, c'est pas possible de croire qu'on a travaillé comme ça.
On marchait à genoux, on marchait à quatre pattes.
4 fois 5, 20, il fallait 20 mineurs.
Moi, je suis venu en 1930.
8000 ouvriers pour faire les minages de betteraves.
Travailler le nez bientôt collé au sol.
Non, vraiment, quand je pense à tout ça, je dis, c'est pas possible que j'ai fait tout ça. Je sais pas possible. J'ai 82 ans, madame. Ben, c'est pas possible de croire qu'on a travaillé comme ça.
Moi, j'ai été ici un des tout premiers à avoir une arracheuse décolleteuse.
Et on disait toujours, on voudrait bien s'acheter une petite maison.
Dans la série d'émissions intitulée « L'homme et la betterave à sucre », 100 ans de mémoire collective du Valois et du Mulsien, émission construite à partir des interviews de ceux et de celles qui ont participé à l'évolution de la culture betteravière, RVM évoque aujourd'hui le volume incroyable de travaux manuels nécessaires aux exploitations avant la mécanisation et les facteurs externes qui expliquent le recours massif à la main-d'œuvre étrangère.
En traversant aujourd'hui les champs presque toujours vides où les plantes semblent pousser sans l'intervention de l'homme, on a du mal à imaginer l'intense activité qui régnait entre les deux guerres, voire même jusqu'aux années 60. Entre 1921 et 1939, une ferme de 300 hectares employait au cours de l'année, tous salariés confondus, 40 à 45 personnes. La mécanisation de certains travaux entraînera une diminution de salariés. Mais en 1955, on trouvera encore 20 à 25 ouvriers pour 350 hectares dans le Valois. Un agriculteur de Nanteuil-le-Haudouin se souvient des années d'avant-guerre et précise la répartition des salariés entre ceux qui étaient employés à l'année et ceux qui ne faisaient que les saisons.
On avait entre 25 et 30 permanents. Ce que je vais vous donner, c'est une moyenne.
Oui.
Mais suivant les types de culture que faisait une ferme, on peut considérer qu'il fallait jusque près de 10 ouvriers permanents pour 100 hectares à l'époque. Aujourd'hui, il en faut un. Pour les minages de betteraves, il fallait une main-d'œuvre importante. On estimait qu'un bon mineur pouvait dégarnir 4 hectares de betteraves en moyenne. Les moins doués, 3 hectares. Les plus doués, montaient à 5 hectares. Mais enfin, pour avoir le personnel nécessaire au travail des minages de betteraves, on se basait sur la base de 4 hectares pour un ouvrier. Ben, les saisonniers, si on faisait, prenons 50 hectares de betteraves pour avoir un chiffre, 4 fois 5, 20, il fallait 20 mineurs, voyez-vous. Alors, ça faisait venir, comme on avait dans une ferme comme ici, ça faisait venir environ une quinzaine de saisonniers, plus 5 locaux qui travaillaient en saison.
Le travail consacré aux betteraves était sans aucun doute le plus long dans l'année, et c'est pour le faire que les saisonniers extérieurs à l'exploitation étaient embauchés. Mais entre les deux binages, puis entre le dernier binage et l'arrachage, les saisonniers, comme une partie des ouvriers embauchés à l'année, effectuaient beaucoup d'autres travaux à la tâche. Avant d'analyser le travail spécifique des betteraves, essayons de rappeler la multiplicité des travaux manuels dont tous les ouvriers gardent la mémoire. Écoutons des ouvriers de Brégy, qui se souviennent de la récolte du blé, de l'avoine ou de l'orge, et des raisons pour lesquelles ils acceptaient tous les autres travaux à la tâche.
Il fallait faire les tas.
Comment vous appelez ça, vous, des tas?
Des tas. Mmh. Bon, il y a des endroits, ils appelaient ça des dixiots.
Mais on mettait les bottes par 10, puis on était payé au 1000.
C'est ça.
Alors quand vous aviez travaillé
de
4h du matin jusqu'à 8h du soir, et ben, que vous aviez marché toute la journée pour faire les tas, le soir, pour vous reposer, vous refaisiez le tour de la pièce 3-4 fois pour compter combien vous en aviez ramassé.
Ça détendait. En principe, journalier, on travaillait à la journée. Mais moi, j'ai pris à travailler à biner les betteraves et tout ça, pour être indépendant.
Les betteraves, c'était...
On était indépendant quand on travaillait presque toujours à tâche.
C'était hein. À la tâche.
Alors on était indépendant, on était... Quand on n'était pas réglementé à dire à telle heure rentrée, telle heure sortie. Non, non. On était indépendants, hein. Et, on est... et puis tu étais libre de faire comme tu voulais. Tu te soulevais à la pause et tu pouvais.
Plus on travaillait, plus on gagnait.
C'est exactement. Moi aussi, la question est là.
On faisait plus facilement 15 heures que 10.
Oui, très facilement, oui. Même.
Oui, des fois plus.
On travaillait à tâche, on le faisait.
D'accord.
Ouais. Il y avait la moisson, il y avait le. Charger du fumier, répandre le fumier, faire n'importe quoi, il y avait tout. Hein.
Ah oui.
Mais les campagnes de betteraves, c'était comme ramasser des bottes à la moisson, c'était un travail qu'on faisait à tâche. C'était particulier, ça.
Aussitôt qu'on avait terminé une campagne, soit de binage de betteraves, on retournait à la ferme, travailler à la journée. Donc il y avait quelque chose à tâche, on le faisait.
Les enfants des journaliers travaillaient avec leurs parents. Une ouvrière agricole âgée aujourd'hui de 82 ans raconte.
On allait au foin, on partait à minuit, 1h du matin, et on revenait pour 10 heures. Alors on se reposait 2 heures, on cassait la croûte, on repartait aux betteraves. On partait aux betteraves, madame. Après, il fallait rentrer les foins, après, on repartait la moisson. Alors on allait ramasser les bottes, moi et ma soeur, on ramassait les bottes.
Comme les journaliers, un saisonnier qui travaillait à McLean prenait tous les travaux à tâche qui lui convenaient.
Entre-temps, on faisait le dégarnissage. On faisait la deuxième façon, comme on appelait, c'est-à-dire pour couper l'herbe qu'on avait oublié, qui était à chaque fois... C'est la guerre entre les cultivateurs et nous, parce qu'on allait trop vite. Et puis, quand on avait fini... Eh bien, on allait faire le lin. C'est-à-dire, on détourait le lin, c'est-à-dire les pièces, pour que, on faisait ça à la main, bien sûr. Et puis, pieds nus dans les chardons. Et puis, quand on avait fini ça, il y avait des machines qui arrivaient, parce que nous, on passait avant. Et après, la machine, elle passait. Elle mettait le lin tout le tour, elle mettait ça par terre, et puis après nous, on repassait où on avait détouré, et puis on ramassait. Mais on faisait ça à l'hectare.
Ramasser comment? Parce qu'il fallait le...
Ramasser à la main. On faisait des bottes.
Un rapport de fin d'études agricole rédigé après un stage dans une ferme du Mulsien permet de retrouver tous les travaux faits à la tâche en 1931.
Au printemps, après le démarrage et souvent en même temps que le deuxième binage, c'était le temps du bottelage du foin, du trèfle ou de la luzerne et de l'échardonnage des céréales. Au moment de la moisson, fin juillet, il fallait ramasser les bottes et mettre en disio le blé, l'avoine et les scourgeons, couper à la faux les parcelles versées, assurer la confection des meules ou transporter les gerbes dans les granges. après la seconde coupe des foins, venaient les regains, à nouveau mis en tas et le bottelage des fourrages. Mi-septembre, l'arrachage, le chargement et le transport des betteraves. Dans le même temps, chargement et épandage des fumiers au croc et à l'aide de la fourche à fumier, ainsi que l'épandage de la marne. Enfin, en hiver, pendant une centaine de jours, on faisait l'ébattage tous les jours de mauvais temps.
En 1931, pour engranger les céréales, il fallait 4 équipes de 5 personnes, donc 20 ouvriers. Chaque équipe se composait d'un chargeur, de 3 calverniers qui utilisaient des fourches à 3 dents de plus de 2 mètres de long pour charger les bottes dans les chariots aux ritelles très élevées. Il fallait également un tasseur plus 3 charretiers. Toujours dans cette même ferme, en 1950, une partie de ces travaux était supprimée comme le chantier pour engranger les céréales et les battages, puisque la moisson était faite avec une moissonneuse-batteuse et les grains livrés directement à la coopérative. Mais, par contre, il fallait arracher 15 hectares de pommes de terre. La mécanisation pouvait aussi rendre le travail plus dur. Ce fut le cas pour l'épandage des fumiers. Cette année-là, les fumières furent vidées en vrac par une grue dans des GMC et des tombereaux. Les hommes eurent beaucoup plus de mal à décharger à l'aide de crocs cette masse compacte de fumier que lorsqu'il était chargé avec une fourche.
Ce volume énorme de travaux manuels était donné en priorité aux ouvriers réguliers de la ferme et à leurs familles, qui y trouvaient une certaine autonomie et l'espoir d'un gain supérieur, ce qui n'est pas certain, comme le rappelle un exploitant de Nanteuil-le-Haudouin à propos du travail betteravier.
Le personnel local, le personnel de la ferme, n'était pas suffisant pour assurer les travaux de démarrage et de binage de betteraves qui suivaient pour maintenir les terres propres. En général, des femmes d'ouvriers demandaient à faire ces travaux à tâche, qui étaient des travaux excessivement pénibles. D'abord parce que ça leur permettait en fait d'améliorer leurs revenus, qui à l'époque étaient vraiment très minimes. Moi je sais que si je prends mes jeunes années, je passais presque pour un anarchiste auprès de mes parents, parce que j'étais un peu révolté par la pénibilité du travail et le peu de rentabilité que ça donnait. Alors bon, quand on avait fait le compte de ces personnes qui demandaient à faire ces travaux saisonniers, ben, il fallait compléter.
Jusqu'en 1914, il sera relativement facile de compléter la main-d'œuvre locale en employant des équipes de travailleurs belges, des familles de tisserands du nord de la France, les Camberlots de la région de Cambrai, qui venaient s'embaucher dans les grandes plaines du bassin parisien et de la Picardie depuis la fin du XIXe siècle. Une ouvrière agricole raconte comment ses parents se fixèrent à Ormois avant la Première Guerre mondiale.
Parlez-moi de vos parents qui venaient du Nord.
Ma mère, elle avait un métier à tisser, elle tissait, faisait de la toile, et mon père, il déchargeait les bateaux.
C'était dans quel coin du Nord?
À 3 km de Cambrai. À Venteux. Et après, quand ils sont mariés, ben, ils ont eu 3 enfants, 3 en 35 mois. Là,
mais ils sont venus très vite à...
Et ils sont venus, oui, parce qu'elle avait de la famille à Vierzy, dans l'Aisne.
Ah, d'accord.
Alors, ils sont venus par ici, ils sont venus chez M. Ferti, ils ont été embauchés pour faire les betteraves. Enfin, ils sont venus quelques années quand même avant. Oui, puis après, ils repartaient travailler là-bas. Oui. Et puis, M. Ferti, un jour, il a dit, mais pourquoi vous repartez? Moi, je peux vous occuper, puis vous donner un logement. Alors, ils sont restés là. Oui. 21 ans. Après, ils sont venus à Lévignon.
Thank you.
Mais dès 1926, l'exode rural, qui a repris dès la fin de la guerre, est surtout le fait des ouvriers agricoles, tendance qui se poursuivra jusqu'en 1939 pour reprendre après 1950. Les raisons de cet exode sont données par un agriculteur de Nanteuil-le-Haudouin qui comprend d'autant mieux ce problème que sa commune est traversée par une ligne de chemin de fer desservant Paris et sa banlieue.
La raison de fond de l'appel à la main-d'œuvre étrangère, c'était que les Français qui étaient là ne voulaient pas faire ce travail ou ils étaient déjà partis vers la région parisienne.
Ils étaient attirés par la région parisienne, surtout dans des pays comme nous qui avions une gare dans le pays et à très faible distance de Paris. Alors les gens partaient, il y avait au moins 3 trains le matin à partir de 5-6 heures du matin qui commençaient à prendre des gens et qui descendaient tout le long de la voie de chemin de fer depuis Mitry-Mory jusque Paris. Jusque Saint-Denis pour le travail dans les usines, et puis après Paris, travail dans les bureaux. Oui. C'était un peu normal, vous aviez un appel de population, un travail moins pénible, un travail mieux payé. Je ne parle pas en temps d'absence, parce qu'en temps d'absence, à ce moment-là où on partait par le train, ils partaient de bonne heure et puis ils rentraient tard. Le temps d'absence du foyer était largement aussi long que le travail en ferme. Les salaires étaient différents, c'était des salaires d'industrie au lieu d'être des salaires de ferme. Et puis la pénibilité du travail n'était quand même pas la même. S'ils travaillaient à la chaîne ou autre, c'est peut-être un peu abrutissant de répéter 300 jours par an le même geste, c'était quand même moins pénible que de travailler par tous les temps.
Les seuls Français qui continueront à venir faire les betteraves, même après la guerre de 39-45, seront les Bretons. Un peu plus de 5000 pour tous les départements betteraviers. Ils seront moins de 800 en 1964. Le volume énorme de travaux manuels nécessaires aux exploitations, dans lequel la culture betteravière représentait une grande part, et la désaffection des ouvriers français pour ce travail, entraînera un recours massif à la main-d'œuvre étrangère. Dès 1920, sous la pression des grands agriculteurs alliés aux responsables des compagnies minières qui recherchaient des mineurs de fonds, les migrations saisonnières, qui étaient une tradition spontanée dans toutes les régions frontalières, ont changé de nature et s'organiser pour introduire un volume de travailleurs sans cesse croissant. Organisé au niveau gouvernemental, de plus en plus contrôlé, l'introduction des travailleurs saisonniers étrangers pour la culture betteravière atteindra le chiffre maximum de 47 700 ouvriers en 1960 pour l'ensemble de la France. Ce chiffre s'ajoutant à celui des ouvriers étrangers qui travaillaient déjà régulièrement dans les fermes est très important.
Le directeur du syndicat des planteurs de betteraves de l'Oise confirme cette évolution dans notre département. Son propos concerne les années où il avait en charge la main-d'œuvre saisonnière étrangère, c'est-à-dire après 1950.
Il y a eu une très grande révolution en dehors de la restructuration de l'industrie sucrière, donc était à son paroxysme dans l'Oise. Nous avons eu une période jusqu'en 1970 où agronomiquement, si vous voulez, ou je dirais techniquement, ils étaient obligés de faire appel à d'énormes quantités de main-d'œuvre, hein, c'est-à-dire en principe d'ailleurs des étrangers. Bon, il y avait quelques Français, mais enfin pas tellement. Ça a commencé par surtout les Italiens. Et dans l'Oise, nous avons eu jusqu'à 8000 ouvriers pour faire les minages de betteraves.
Nous reprendrons en détail l'histoire de cette grande migration dans la prochaine émission. C'était « L'homme et la betterave à sucre », 100 ans de mémoire collective du Valois et du Mulsien. Aujourd'hui, le volume de travaux manuels nécessaires aux exploitations et le recours à la main-d'œuvre étrangère. Réalisation RVM.
Vous venez d'entendre un épisode de la série radiophonique « L'homme et la betterave à sucre », 100 ans de mémoire collective du Valois, une série de 15 émissions produites par RVM en 1994 et 1995.